Bonjour, Régis Coulange. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, ça ne va pas être très joyeux, encore l'actualité.
Et oui, l'actualité est encore difficile pour les droits humains. Donc je vais vous parler en premier de la terrible répression qui s'abat sur les homosexuels en Tchétchénie. Il y a eu d'ailleurs aujourd'hui une manifestation à Paris avec Amnesty International et puis d'autres associations, bien sûr, de défense des homosexuels, en lien avec, bien sûr, avec la visite de Poutine à Versailles, reçue par Macron à l'occasion de l'inauguration d'une exposition. Et on voulait donc attirer l'attention de cette grave répression envers ces personnes. Et que M. Macron n'oublie pas d'en parler, puisqu'il a dit qu'il allait parler de tout. Voilà. Et puis ensuite, on parlera d'un milliard de dollars d'armes perdues en Irak. Et du coup, on va un petit peu parler justement du commerce des armes. Ensuite, on parlera d'un nouveau rapport d'Amnesty qui vient de sortir sur les défenseurs des droits humains menacés. Et puis ensuite, on parlera un petit peu des activités du groupe Dinois, et ainsi qu'une activité du groupe de Marseille qui se passera le prochain week-end. Et puis, en fin d'émission, on présentera deux albums pour enfants sur les thèmes d'Amnesty International, de défense des droits humains. Et puis, bien sûr, tout cela entrecoupé de chansons. Alors, on commence donc par cette terrible répression envers les homosexuels en Tchétchénie. Vous avez sur le site amnesty.fr une pétition à signer. Ce serait bien d'être très, très, très nombreux à la signer, parce que ce qui se passe en Tchétchénie est absolument abominable. Voilà, je vous lis le texte de la pétition qui est adressée à M. Alexandre Ivanovitch Bastrin, qui est responsable du comité d'enquête. En Tchétchénie, des hommes suspectés d'être homosexuels sont enlevés, torturés et même tués en toute impunité. C'est ce qu'a révélé le 1er avril le quotidien indépendant russe Novaya Gazeta, en indiquant que plus d'une centaine d'hommes suspectés d'être homosexuels avaient été enlevés dans les jours précédents. Ces hommes auraient subi des actes de torture ou d'autres mauvais traitements et auraient été obligés de divulguer l'identité d'autres personnes, lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres qu'ils connaissent. Les autorités tchétchènes ont réagi en niant ces informations ou en formulant des menaces à peine voilées. Le comité d'enquête russe constitué le 17 avril doit impérativement mener des enquêtes indépendantes sur ces exactions. Je vous demande de toute urgence de mener sans délai des enquêtes approfondies et efficaces sur ces allégations d'enlèvement et d'homicide d'hommes suspectés d'être homosexuels en Tchétchénie et traduire les responsables en justice, de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de quiconque risque de se trouver en danger en Tchétchénie en raison de son orientation sexuelle, et de rappeler aux autorités russes et tchétchènes qu'en vertu du droit international, elles ont l'obligation d'interdire la discrimination et d'enquêter et engager des poursuites pour les crimes motivés par la haine. Veuillez agréer M. Alexandre Ivanovitch Bastrin, l'expression de ma haute considération. Voilà, donc vous pouvez aller sur amnesty.fr, signer cette pétition et rajouter votre voix à l'ensemble des voix qui s'élèvent contre cela. Donc nous allons maintenant poser trois questions à Julie Éloin, qui travaille au programme de protection des populations à Amnesty International France. Donc, première question qu'on lui pose, c'est que se passe-t-il en Tchétchénie ?
Eh Nous avons appris début avril par le journal indépendant russe Novaya Gazeta que des exactions avaient lieu à l'encontre de personnes homosexuelles ou supposées homosexuelles. Par exaction, on entend enlèvement, torture, meurtre. Ces informations ont été confirmées depuis par différentes sources. On a récolté des témoignages de victimes qui se sont enfuies de Tchétchénie. Interrogées, les autorités tchétchènes ont totalement nié ces atrocités et vont même jusqu'à nier la présence de personnes homosexuelles en Tchétchénie.
Pourquoi y a-t-il si peu d'images ?
La Tchétchénie est un pays très autoritaire, où il n'y a pas de liberté de la presse, les droits de l'homme sont régulièrement bafoués, les journalistes ne peuvent pas s'y rendre, les observateurs internationaux non plus, par conséquent il est très compliqué d'avoir des images. Il faut savoir que le journal Novaya Gazeta a pris d'énormes risques en divulguant les informations relatives aux exactions contre les personnes homosexuelles. D'ailleurs, ils ont été menacés il y a peu de jours par les autorités tchétchènes ouvertement. Et puis, il y a évidemment ces témoignages de victimes qui ont réussi à s'échapper de Tchétchénie, qui doivent être gardés confidentiels, car si ces personnes étaient reconnues par le gouvernement tchétchène ou par leurs proches, elles seraient évidemment en très grand danger.
Que peut-on faire ?
Il y a deux urgences. D'une part, faire la lumière sur les exactions commises en Tchétchénie, et d'autre part, mettre à l'abri les personnes ciblées. La communauté internationale doit se mobiliser. Amnesty International a mis en ligne une pétition adressée au comité d'enquête russe qui doit faire le jour sur les exactions commises, qui a été signée par plus de 600 000 personnes. Il faut également que M. Macron et son gouvernement réussissent à convaincre M. Poutine d'user de son influence pour faire cesser ces exactions et bien évidemment accélérer le travail d'enquête.
Voilà, donc on espère que M. Macron va user de son influence dans ce sens-là. Voilà, on rend aussi hommage à ce journal, hein, Gazeta Noveta, qui a des journalistes qui ont été exécutés justement parce qu'elle dénonçait le régime de Tchétchénie, les violations flagrantes des droits humains. On va maintenant parler d'un très grave problème qui ajoute beaucoup de violence à la violence que l'on constate tous les jours. C'est le problème de ces armes qui sont vendues par les pays producteurs d'armes, bien sûr, mais pas toujours bien suivies. Alors on vient de publier, là, le 24 mai, un communiqué de presse intitulé « 1 milliard de dollars d'armes perdues en Irak ». L'armée américaine reconnaît des lacunes dans le suivi des transferts d'armes et autres équipements militaires à destination de l'Irak et du Koweït, d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars. Un audit réalisé par le gouvernement américain dès septembre 2016 révèle que le département de la Défense ne disposait pas d'archives précises et actualisées sur le nombre et la localisation d'une grande quantité d'équipements inondant le Koweït et l'Irak pour approvisionner l'armée irakienne. Cet audit donne un aperçu inquiétant du système défectueux et potentiellement dangereux mis en place par l'armée américaine pour contrôler des transferts d'armes de plusieurs millions de dollars vers une région très explosive. Ceci est d'autant plus inquiétant au regard d'un passé marqué par des détournements d'armes américaines vers de multiples groupes armés commettant des atrocités en Irak, notamment le groupe armé se désignant sous le nom d'État islamique. Les transferts militaires se sont déroulés dans le cadre du Fonds de formation et d'équipement pour l'Irak, l'ITEF, pilier de la coopération entre les États-Unis et l'Irak en matière de sécurité. Ces transferts, qui englobent des dizaines de milliers de fusils d'assaut, pour une valeur de 28 millions de dollars, des centaines d'obus, de mortiers et des centaines de véhicules blindés, était destiné à être utilisé par l'armée centrale irakienne, notamment par les unités de mobilisation populaire majoritairement chiites, ainsi que par les forces kurdes des Peshmerga. L'audit du département de la Défense a révélé plusieurs lacunes graves au niveau de l'enregistrement des équipements et du suivi à partir du point de livraison, notamment la mauvaise tenue des registres dans les dépôts d'armes au Koweït et en Irak, des informations enregistrées sur de multiples tableaux, bases de données et même des reçus écrits à la main. De grandes quantités d'équipements saisis manuellement dans de multiples tableaux, ce qui accroît le risque d'erreur humaine, des registres incomplets ne permettant pas aux personnes responsables des équipements de vérifier avec certitude leur emplacement ni leur statut. En outre, on pouvait lire que le département de la Défense n'avait pas la responsabilité d'assurer le suivi des transferts de l'ITEF immédiatement après livraison aux autorités irakiennes, alors que le programme Golden Sentry du département a pour mission de réaliser ces vérifications après la livraison. Une précédente évaluation du département de la Défense pointait du doigt des procédures de suivi de stock encore plus négligentes, appliquées par les forces armées irakiennes. Dans certains cas, l'armée irakienne ne savait pas ce qui était stocké dans ses propres entrepôts, tandis que des équipements militaires qui n'avaient jamais été ouverts ni inventoriés étaient stockés à l'extérieur dans les conteneurs maritimes. Il est vital d'effectuer une surveillance après la livraison. Toutes les fragilités le long de la chaîne du transfert d'armement accroissent nettement les risques de détournement d'armes dans une région où les groupes armés font des ravages et causent d'immenses souffrances. Nos recherches ont constamment mis à jour des contrôles insuffisants et des tenues de registre négligentes. Aussi, des armes fabriquées aux États-Unis et dans d'autres pays se retrouvent-elles entre les mains de groupes armés connus pour commettre des crimes de guerre et autres atrocités comme l'État islamique, ainsi que des milices paramilitaires désormais intégrées au sein de l'armée irakienne. En réaction à l'audit, l'armée américaine s'est engagée à resserrer ses systèmes de suivi et de surveillance. Cette situation devrait servir d'avertissement aux États-Unis et à tous les États qui fournissent des armes à l'Irak et les inciter à renforcer de toute urgence les vérifications et les contrôles. Tout État qui vend des armes à l'Irak doit attester que des mesures strictes sont mises en place pour s'assurer qu'elles ne seront pas utilisées pour bafouer les droits fondamentaux. Sans ces garanties, aucun transfert ne doit avoir lieu. Les États-Unis doivent se conformer à la loi Leahy, qui interdit de fournir la plupart des catégories d'aide et de formation de l'armée américaine à des unités étrangères, militaires, de sécurité et de police, auxquelles sont imputées des violations flagrantes des droits humains. Enfin, et c'est essentiel, les États-Unis et l'Irak doivent adhérer au traité mondial sur le commerce des armes, le TCA, qui édicte des règles strictes afin de stopper les transferts ou les détournements d'armes susceptibles de servir à commettre des atrocités. Voilà, donc c'est un très grave problème mondial, hein, cette circulation d'armes. Et on sait très bien que quand les armes circulent dans un pays, les violences sont multipliées envers toutes les personnes, et notamment les femmes. Voilà, alors nous allons maintenant écouter, pour mieux comprendre le commerce des armes, écouter une petite émission qui s'appelle « Voir pour comprendre, le commerce des armes ».
Voir pour comprendre. Le commerce des armes. Guerre, répression armée, criminalité. Chaque année, un demi-million de personnes sont tuées par armes. Plusieurs milliers d'hommes, de femmes et d'enfants meurent faute d'accès aux soins, à l'eau ou à la nourriture, piégés dans des conflits alimentés par la circulation non réglementée des armes classiques. Toutes les minutes, une personne meurt à cause d'une arme. Et toutes les minutes, 15 nouvelles armes sont fabriquées pour être vendues. Or, les États sont les acteurs principaux de ce commerce trop souvent irresponsable. Bon, je sais que ce n'est pas incroyablement fun, mais pour bien comprendre, on a quand même besoin de quelques définitions, donc commençons. Une arme est définie comme un outil ou un dispositif destiné à neutraliser, blesser, tuer ou causer une destruction matérielle. D'un côté, il y a les armes de destruction massive, biologiques, chimiques, nucléaires, qui sont contrôlées. Et de l'autre, les armes classiques, dites aussi conventionnelles. Le registre des Nations Unies distingue 7 catégories d'armes classiques à surveiller. Les systèmes d'artillerie de gros calibre, les avions de combat, les chars de combat, les hélicoptères d'attaque, les véhicules blindés de combat, les navires de guerre, les missiles et les lanceurs de missiles. Cette liste d'équipements militaires est très insuffisante. Elle n'inclut pas les armes légères et de petit calibre. Or, depuis les années 90, la communauté internationale s'intéresse de près à ces armes légères en raison de leur prolifération incontrôlée et de leur usage facile. Près de 100 millions d'AK-47 et de modèles dérivés circuleraient dans le monde. Même de jeunes enfants peuvent les manier. Pourtant, elles font infiniment plus de victimes que les autres types d'armes. Quasiment chaque année, le nombre de morts causés par ces armes dépasse largement celui des victimes des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Un premier essai de définition a été tenté par un groupe d'experts gouvernementaux de l'ONU. Ils ont distingué deux sous-groupes, les armes de petit calibre, utilisables par une seule personne, et les armes légères, qui nécessitent un travail d'équipe. À cela s'ajoutent les munitions et explosifs, sans lesquels, bien entendu, les armes n'ont aucun effet. Enfin, il reste les équipements utilisés à des fins de sécurité et de maintien de l'ordre, qui servent fréquemment à réprimer toute contestation populaire. Il s'agit des menottes, véhicules anti-émeutes à canon à eau, véhicules blindés, munitions pour carabines, armes à feu, matraques, gaz lacrymogène, munitions, comme les balles métalliques recouvertes de caoutchouc et les balles matraques en caoutchouc dur, grenades aveuglantes et assourdissantes. Cette liste n'est pas exhaustive. Le fameux taser fait partie de ces équipements. Alors qu'il est présenté comme une arme à létalité réduite ou non meurtrière, il a causé de nombreux décès. Vous l'avez compris, il n'y a pas de définition simple et complète de ce qu'est une arme, et l'usage du matériel est tellement varié que cela rend encore plus complexe la situation. Pourtant, même le recours aux armes par des États est régi par des règles. En cas de conflit, c'est le droit international humanitaire qui s'en occupe. Il dit que les cibles des attaques doivent être limitées aux combattants et donc épargner les civils, leurs biens et toute personne qui a cessé de se battre. De plus, les opérations militaires ne doivent pas provoquer de pertes ou de dommages excessifs par rapport à l'avantage militaire attendu. Il interdit également d'utiliser des armes qui ne font pas la distinction entre les civils et les militaires, des armes qui infligent des blessures superflues ou des souffrances inutiles. Le droit international des droits humains, lui, reste en vigueur en complément du droit international humanitaire. En dehors de tout conflit, il est simplement interdit de recourir à un usage excessif de la force. Pourtant, sur de nombreux territoires en guerre, ces deux droits ne sont pas respectés. Intensification et allongement dans le temps du conflit, augmentation du nombre d'utilisateurs, multiplication des exactions, c'est justement la prolifération des armes qui joue un rôle déterminant dans leur violation. Et cette situation, toujours du fait de l'abondance des armes disponibles, continue même après la résolution du conflit. Comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre, il faut regarder en arrière pendant la guerre froide. De 1947 à 1991, les deux blocs se sont massivement équipés en armes classiques et en armes nucléaires. Ils ont approvisionné les régimes amis et les groupes rebelles adversaires de l'autre bloc. Leur business a continué, favorisé par l'absence de contrôle et la multiplication des conflits entre États. De 1988 à 1998, la priorité était de se débarrasser des stocks d'armes devenus inutiles sans s'occuper de ce qu'ils deviendraient. Des courtiers comme Leonid Minin ou Victor Bout ont profité de cette situation en livrant des tonnes de munitions et d'armes en dépit des embargos. Et puis, il y a eu les attentats du 11 septembre 2001 et la lutte contre le terrorisme a permis de justifier les dépenses militaires et les ventes d'armes. Et même si la situation est de plus en plus préoccupante, il n'y a toujours pas de contrôle et les règles d'exportation des armes ne sont pas assez homogènes ni contraignantes. Elles laissent trop de liberté aux marchands d'armes peu soucieux des droits humains. Pourtant, il est évident que la vente d'armes n'est pas un commerce comme les autres. Et c'est effarant de voir que, par exemple, l'Europe refuse de vendre des jouets qui pourraient blesser un enfant, mais vend à d'autres pays des millions d'armes qui en tuent des milliers. Et aujourd'hui, quel est le problème ? Le commerce mondial des armes est un commerce très complexe, très difficile à encadrer, d'autant plus que le marché de l'armement s'est mondialisé dans les années 90. Presque aucune arme moderne n'est fabriquée intégralement en un lieu unique. Par exemple, l'hélicoptère de combat Apache comporte une grande part de composants d'origine étrangère. Selon John Schibler, directeur de la construction de l'Apache chez Boeing, il y a plus de 6000 pièces dans l'Apache, fabriquées dans le monde entier. Est-ce que vous voulez un autre exemple parmi des centaines pour bien comprendre cette complexité ? Ok, les producteurs d'armes recourent à l'achat de biens à double usage pour fabriquer leurs équipements. Ces biens peuvent avoir une utilisation tant civile que militaire et ne sont pas nécessairement contrôlés, comme les circuits intégrés à micro-ondes utilisés dans les antennes paraboliques et les téléphones mobiles qui se retrouvent dans les missiles Hellfire. Sans oublier que le transfert des armes par les États, c'est-à-dire leur exportation, comporte plusieurs étapes. Négociation, achat et vente, obtention d'une autorisation d'exportation et d'une autorisation d'importation, transport, transit, transbordement et livraison au destinataire final. Le cadre juridique de ces transferts est insuffisant, et si un transfert est autorisé, cela ne signifie pas qu'il est légal. Par exemple, l'utilisation finale des armes peut violer le droit international. L'un des acteurs clés du transfert, c'est le courtier immortalisé par Nicolas Cage dans Lord of War. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un trafiquant d'armes. Ces courtiers sont souvent impliqués dans des livraisons d'armes dans des zones qui violent les droits humains et qui sont sous embargo de l'ONU, comme par exemple le Soudan du Sud, l'Irak, la République démocratique du Congo et la Libye. À ce titre, les courtiers constituent à eux seuls une menace pour la paix et la sécurité internationale. Même le fameux certificat d'utilisation finale, censé assurer que l'usage des armes se fera dans le respect du droit, est souvent insuffisant. Non seulement peu de pays le pratiquent, mais en plus, il est facile d'obtenir, dans certains cas, de faux certificats tant le commerce des armes est corrompu. 50% des pots de vin de l'ensemble du commerce mondial sont payés pour des contrats de l'industrie de la défense. Cette corruption et des réglementations laxistes permettent aussi de faire disparaître des radars, des cargaisons très encombrantes qui nécessitent pourtant des moyens lourds et très visibles. Pavillons de complaisance maritime et aérien, maquillage des bateaux, transfert d'un bateau à un autre dans les eaux internationales, zones franches, sociétés écrans comme au Royaume-Uni, paradis fiscaux, banques offshore, tous les moyens sont bons. Quant au contrôle post-exportation, ils ont rarement lieu. Ok, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau mondial ? Parmi les premiers exportateurs d'armes, on retrouve les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, la France ainsi que l'Allemagne. Conseil qui, rappelons-le, a la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Pourtant, leurs exportations d'armes empêchent parfois le développement des pays acheteurs. Les dépenses d'armement se font au détriment des dépenses d'infrastructures, d'éducation, de santé, de protection de l'environnement. Elles accaparent aussi le revenu des ressources naturelles, le pétrole du Soudan et de l'Angola, le bois du Cambodge, le coltan de la République démocratique du Congo, les diamants de la Sierra Leone, engloutis dans l'achat des armes au lieu de renforcer l'économie du pays. C'est comme ça qu'entre 1990 et 2005, 23 pays africains ont littéralement perdu, à eux tous, une somme estimée à 284 milliards de dollars suite à des conflits armés alimentés par des transferts de munitions et d'armes. Les fournisseurs d'armes contribuent également à alimenter la répression interne et les conflits armés. Là encore, les exemples sont aussi nombreux que préoccupants. Au cours des dernières années, les autorités égyptiennes ont choisi la répression sous prétexte de rétablir la stabilité dans le pays. Certains pays ont suspendu leurs transferts d'armes suite à la mort de centaines de manifestants tués par les forces de sécurité en août 2013. Mais pas tous. 12 des 28 États membres de l'Union européenne ont continué à fournir des armes sans s'inquiéter de se rendre complices d'homicides, de disparitions forcées et de tortures. Qui sont-ils ? L'Allemagne, la Bulgarie, Chypre, l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Slovaquie. Même situation au Yémen. Alors que de nombreuses informations confirment que la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite mène des attaques directes contre des hôpitaux et des cibles civiles, des États membres et signataires du traité sur le commerce des armes continuent de fournir des armes. Et la France dans tout ça ? Elle joue à merveille la carte de l'hypocrisie. Quatrième vendeur mondial d'armes, elle s'est engagée en faveur d'un traité international sur le commerce des armes, mais elle manque encore de rigueur dans son application. Même si elle siège au Conseil de sécurité des Nations Unies et veille à l'application des embargos sur les armes, au niveau national, la France ne dispose pas de cadre juridique exhaustif pour sanctionner efficacement leurs violations. C'est grâce à ce manque de cadre que le trafiquant d'armes français Robert Montoya, ancien gendarme de la cellule antiterroriste de l'Élysée, n'a jamais été poursuivi alors qu'il a fourni du matériel de guerre à la Côte d'Ivoire en dépit de l'embargo de 2004. Par ailleurs, la France n'a pas de dispositif juridique complet pour encadrer efficacement l'activité des marchands d'armes. Enfin, elle manque de transparence sur ses exportations d'armement, ce qui empêche tout débat démocratique qui serait pourtant le bienvenu, alors même que le Parlement ne s'y intéresse pas du tout. Bon, clairement, l'état des choses était loin d'être idéal et il était largement temps de se bouger pour changer ça. S'il n'est pas question de contester le droit légitime des États à s'armer pour protéger leur population, il s'agit de mieux contrôler les transferts internationaux d'armes d'un pays à l'autre. Car chaque jour, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants vivent dans la peur des massacres, des assassinats, des tortures, des violences sexuelles, des disparitions et des déplacements forcés. La violence induite par l'usage des armes bafoue également les droits économiques, sociaux, culturels, civils ou politiques, pourtant garantis par le droit international. En 2001, les armes légères ont été reconnues comme armes de prédilection dans 46 des 49 plus grands conflits que la planète a connus depuis 1990. Aujourd'hui, 80% des victimes sont des civils, alors que la proportion était inverse au début du XXe siècle. À y regarder de plus près, vendre des armes à un pays totalitaire, c'est souvent l'armée contre son peuple, non ? Face à cette situation catastrophique, des pressions à l'échelle mondiale, politique et citoyenne ont incité les Nations Unies à ouvrir des négociations en vue de l'adoption d'un traité sur le commerce des armes, le TCA. En 2003, un groupe d'ONG avec à sa tête Amnesty International, Oxfam et le Réseau d'Action Internationale sur les Armes Légères, soutenu par 18 lauréats du prix Nobel de la paix, ont lancé, dans plus de 50 pays à travers le monde, la campagne « Contrôler les armes ». Cette année-là, seuls 6 États, le Brésil, le Cambodge, le Costa Rica, la Finlande, la Macédoine et le Mali, se déclaraient favorables à l'adoption d'un traité sur le commerce des armes. En décembre 2006, la campagne connaît un tournant historique avec l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la résolution 6189. Elle appelle tous les États membres à travailler à l'adoption d'un traité établissant des normes internationales communes pour l'importation, l'exportation et le transfert d'armes classiques. En 2009, après 3 années de consultation, les Nations Unies lancent officiellement le processus de négociation et d'adoption du premier traité de l'histoire consacré au commerce des armes. Et où en est-on maintenant ? Après plus de 10 ans de négociations internationales et 20 ans de campagne de mobilisation, le traité de commerce des armes est entré en vigueur le 24 décembre 2014 et compte 92 États parties et 130 États signataires. Parmi les États parties, on retrouve de grands exportateurs comme la France, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne. Ils couvrent les armes du registre des Nations Unies, les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et les pièces et composants. Le TCA est le premier traité fixant des normes mondiales pour réglementer le commerce international des armes classiques et des munitions. À ce titre, il peut sauver des milliers de vies en prévenant les transferts et exportations d'armes irresponsables. Car si les embargos sont toujours indispensables, ils interviennent en général trop tard. Sans compter que 90% des armes illicites proviennent du commerce dit « légal ». Il permet de lutter contre le terrorisme, la criminalité internationale organisée, le trafic illicite d'armes et leur détournement, et aussi contre l'enrôlement des enfants soldats. Dorénavant, les droits humains sont pris en compte lorsqu'il est question de commerce des armes. Les États ont même l'obligation d'interdire les transferts lorsqu'ils apprennent, au moment de l'autorisation, que les armes pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. En améliorant la transparence sur les exportations et les importations d'armes, ce traité nourrit la confiance entre les États. Alors, c'est vrai, il reste encore du chemin à parcourir. Les États-Unis et Israël, pourtant signataires, n'ont toujours pas ratifié ce document, tandis que certains gros fabricants d'armes, comme la Chine et la Russie, ou gros importateurs, comme l'Inde, l'Égypte ou l'Arabie Saoudite, sont totalement opposés au traité. Mais il faut garder en tête que c'est la seule solution efficace pour résoudre ce problème planétaire. C'est pourquoi les États parties doivent continuer à encourager les autres pays à rejoindre le TCA. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Nelson Mandela.
Voilà, il y a eu des progrès, mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Et on se rend compte dans ce reportage que l'afflux d'armes entraîne des violations de plus en plus nombreuses des droits humains et du coup aussi tous les problèmes des réfugiés qui fuient la terreur, la guerre et qui ne sont pas toujours bien accueillis chez nous. Voilà, on va écouter maintenant une chanson justement sur contre les producteurs d'armes. To Afrobeat Makossa par Fogeba.
Arrêtez. Terrorisme. 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 Nous avons eu assez de corps troués de balles. Arrêtez la production des roquettes. Nous avons eu assez de corps embrasés. Fabrication des mitraillettes. Nous avons vu assez de corps troués de balles. Arrêtez la production des roquettes. Nous avons vu assez de corps embrasés. Christmas.
Voilà, donc on continue notre émission. Je vais vous parler maintenant d'un nouveau rapport d'Amnesty International qui est sorti le 16 mai 2017 et que vous pouvez télécharger sur le site amnesty.fr. Il s'appelle « Défenseurs des droits humains menacés, un espace de plus en plus restreint pour la société civile ». Voilà donc désormais près de 20 ans, en 1998, la communauté internationale s'est rassemblée aux Nations Unies et a adopté sans vote la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme et la société civile, qui vise à protéger ces derniers et les reconnaît comme des vecteurs de changement jouant un rôle essentiel dans la promotion et la protection des droits humains. En apportant le soutien à la Déclaration, les gouvernements se sont engagés à aider les défenseurs des droits humains et à veiller à ce qu'ils soient en mesure d'agir sans entrave et sans avoir à craindre des représailles. Pourtant, aujourd'hui, l'esprit comme la lettre de la Déclaration sont ouvertement bafoués. Nous vivons une époque de peur, de clivage et de politique de diabolisation. Dans le monde entier, des discours pernicieux sur le thème « eux contre nous » rejettent sur des groupes entiers de population la responsabilité de problèmes sociaux et politiques. En dépit de l'assaut mondial contre la contestation pacifique, les défenseurs des droits humains refusent de se soumettre et d'accepter l'injustice. Nous avons un solide esprit de justice et il ne se laissera pas étouffer. Nous avons tous le pouvoir de contester les discours toxiques et de lutter contre l'injustice. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de personnes qui se dressent courageusement contre l'injustice. Étudiants, responsables locaux, journalistes, avocats, victimes de violations des droits humains ou leurs proches, enseignants, syndicalistes, lanceurs d'alerte, paysans, les défenseurs des droits humains viennent de tous les horizons. Leur point commun ? Revendiquer les droits humains et l'égale dignité de chacun, dénoncer les abus de pouvoir des gouvernements et des entreprises. En première ligne, cela fait d'eux les premières cibles de la répression. Qu'ils protègent l'environnement, défendent les minorités, s'opposent aux obstacles traditionnels empêchant les femmes et les personnes LGBT de jouir pleinement de leurs droits, s'élèvent contre les conditions de travail abusives. Les personnes qui osent défendre les droits humains sont de plus en plus prises pour cible et les endroits sûrs pour elles disparaissent à une échelle alarmante. Ces femmes et ces hommes sont confrontés à une déferlante d'actes de harcèlement, de manœuvres d'intimidation, de campagnes de diffamation. Internet est devenu un biais particulièrement pernicieux pour harceler les défenseurs. Selon Alberto Escorcia, défenseur des droits humains mexicain, « S'il ne nous tue pas, il nous pourrit sa vie. Il génère un climat de peur constant qui fait que les gens arrêtent de publier. » D'autres sont victimes de mauvais traitements, de placements en détention illégaux, voire tués. Et tout cela uniquement pour avoir voulu défendre une cause juste. Voici quelques chiffres qui correspondent à l'année 2016. 281, c'est le nombre de défenseurs des droits humains qui ont été tués, contre 156 en 2015. Plus de 75% des défenseurs des droits humains tués étaient sur le continent américain. 63, c'est le nombre de pays où des défenseurs des droits humains ont été victimes de campagnes de diffamation. 68, c'est le nombre de pays où les défenseurs des droits humains ont été arrêtés ou placés en détention. 94, c'est le nombre de pays où des défenseurs des droits humains ont été menacés ou agressés. Les gouvernements de nombreux pays adoptent des lois et des politiques qui rendent le travail des défenseurs des droits humains à la fois plus dangereux et plus difficile. Lois autorisant le recours à la force contre des manifestants pacifiques ou légitimant la surveillance de masse, interdiction de percevoir des fonds provenant de l'étranger, mise en place de conditions strictes pour l'enregistrement d'une organisation, la marge de manœuvre pour la défense des droits humains ne cesse de se réduire. C'est par exemple le cas des États-Unis, du Bélarus, de la Chine ou de la Russie, mais la répression est mondiale. Dans le même temps, les défenseurs des droits humains sont désignés toujours plus ouvertement comme des criminels, des indésirables, des agents de démons. Ils sont accusés d'être antinationaux, des agents de l'étranger, des terroristes. Ils sont dépeints comme une menace pour la sécurité, le développement ou les valeurs traditionnelles, justifiant les attaques à leur encontre. Ils sont en outre confrontés à la fois à un accès réduit à l'information, aux réseaux et aux outils dont ils ont besoin pour faire changer les choses et à l'absence d'une protection adéquate contre les attaques qu'ils subissent. Les auteurs de ces attaques sont rarement déférés à la justice. La volonté politique de protéger les défenseurs des droits humains en tant qu'élément essentiel pour bâtir un monde plus sûr et plus juste est faible, contrairement aux engagements qui avaient été pris par les Nations Unies, donc il y a 20 ans, en 1998. Voilà, donc si vous allez voir ce rapport, hein, vous pouvez le télécharger, le lire directement, vous aurez des cas précis de ces défenseurs des droits humains, dont notamment celui dont j'ai parlé souvent sur cette antenne. Il s'agit de Biram Dahabé, militant contre l'esclavage en Mauritanie et qui est harcelé régulièrement par son gouvernement, justement pour défendre la dignité humaine et les droits humains. Donc je vous conseille vivement d'aller voir ce rapport sur amnesty.fr. Voilà, on va maintenant écouter une chanson de Lassa, de Cara la Pared. Voilà, très, très belle voix que cette actrice, chanteuse, trop tôt disparue, hein, décédée suite à un cancer du sein. Ce qui me permet de faire le lien avec ce qui va se passer à Marseille le samedi 3 juin et dimanche 4 juin. C'est une course solidaire qui s'appelle la Marseillaise des femmes, donc course réservée aux femmes, ainsi qu'aux jeunes femmes et aux filles, puisque il y a une course aussi pour les enfants. C'est une course solidaire qui reverse 1 euro pour chaque inscription à la recherche sur le cancer du sein et 1 euro à Amnesty International pour son action continue en faveur des droits des femmes. Donc, pendant ce week-end, le groupe de Marseille, aidé par les groupes de la région autour de Marseille, tiennent un stand, font signer des pétitions, en lien bien sûr avec les violences faites aux femmes, et font connaître Amnesty International à tous les participants à cette course qui a débuté il y a quelques années, c'était de façon très modeste. Et depuis le départ, Amnesty est partenaire de cette opération. Et maintenant, nous en sommes à plusieurs milliers de participantes et les organisateurs espèrent cette année encore dépasser le record de l'année dernière. Voilà, donc si vous avez envie de courir pour la bonne cause, hein, puisqu'il y a 1 euro reversé à la recherche sur le cancer du sein et 1 euro à Amnesty International, renseignez-vous sur Internet. Ça s'appelle donc la Marseillaise des femmes. Voilà, alors les activités du groupe Dinois. Nous avons fait, bien sûr, la foire aux livres les 5 et 6 mai. Foire qui a encore très bien marché, hein, grâce à tous les bénévoles qui sont venus nous aider à transporter les livres, à les trier, à les ranger, pour que les gens soient contents de chercher, parce qu'il y en avait des milliers, et finalement, les gens nous ont complimentés sur le fait que c'était bien rangé, que c'était agréable à chercher.
Le bilan, c'est toujours à peu près la même somme,
oui,
que vous arrivez à récupérer.
Oui, on a récolté 2400 euros.
Ah oui.
Voilà. Et ce qui est bien, c'est que en fait, on ressent une solidarité et un échange réciproque, hein, puisque beaucoup de gens reviennent chaque année et beaucoup de gens qui viennent chercher des livres nous en ramènent à cette occasion. Hein. Donc, il y a vraiment un échange. Hein. Il y a un échange aussi dans les bénévoles qui viennent nous aider à porter, à classer et puis à ramener le samedi soir tous ces livres. Et cette année, on a été très touchés par le fait que des migrants de Champtercier sont venus nous aider à
charger le camion,
le samedi soir. Ils étaient plusieurs et très contents de rendre la solidarité qu'on leur a apportée. Voilà, donc je voulais insister sur cet échange réciproque de solidarité qui fait que on se connaît et on est dans l'échange et la découverte de l'autre, au-delà de la foire aux livres, hein, qui nous apporte aussi beaucoup de plaisir de parler de littérature, de rechercher des livres pour les uns, pour les autres. C'est une opération qui nous fatigue beaucoup, mais qui est très, très bénéfique et qui nous permet aussi de faire signer des pétitions et puis de faire parler d'Amnesty International.
C'est fou que malgré la vente de bon nombre de livres, il en reste toujours
on les range dans des caisses et finalement, on avait... au départ, on a apporté toutes les caisses, étaient remplies. Et on avait aussi beaucoup de cartons, une centaine de cartons. Et là, donc, on a tout remis dans les caisses. On n'a plus du tout utilisé de carton. Et on a ramené des caisses vides. Une dizaine,
hein,
une douzaine de caisses vides. Ouais. Donc, ça montre qu'on a aussi beaucoup vendu. Alors qu'on nous en a aussi également apporté pendant ce week-end. Voilà, donc on est content parce que ça marche bien chaque année et les gens reviennent volontiers. Il y a des nouveaux aussi. Voilà. Donc, pour le mois de juin, les projets, On va, je pense, participer à une fête avec les migrants de Champtercier, fin juin. Et puis, on va organiser un ciné-débat au Ciné-Étoile.
Alors, ce sera quoi, ce ciné-débat ?
Alors, le ciné-débat, ce sera le lundi 26 juin. Alors, l'horaire n'est pas encore fixé. Hein. Ça sera ou 18h30 ou 21h. Et c'est autour d'un film qui s'appelle « Un paese di Calabria ». C'est l'immigration à contre-courant. Et il y aura, bien sûr, il y aura, ce qui est intéressant, la participation de la réalisatrice de ce film, documentaire. Donc, je vous rappelle le titre, c'est « Un paese di Calabria ». C'est un documentaire sensible et beau qui raconte à plusieurs voix la vie de Riace, un village du sud de l'Italie, devenu depuis plusieurs décennies un havre de paix pour les réfugiés, à qui il doit sa renaissance grâce à l'arrivée de ses nouveaux visages, nouveaux travailleurs, nouveaux enfants. Une réponse imparable à ceux qui prônent la haine, le racisme et la ségrégation. Voilà, donc un village de Calabre qui a fait le choix de l'accueil des réfugiés et qui a vu son village se développer. Voilà. Alors tout n'est pas rose parce qu'il y a la mafia qui voit ces réfugiés leur échapper, parce que souvent il les exploite, mais c'est une très belle expérience de partage et d'apport mutuel les uns et les autres. Voilà. Donc, ce sera le lundi 26 juin. Surveillez le programme. L'horaire n'est pas encore fixé. Hein, donc, ou 18h30 ou 21h. Voilà, vous le verrez. Et puis, bon, ben, après, l'activité du groupe, ben, régulièrement, chaque membre envoie du courrier à différents gouvernements pour faire cesser des tortures, pour suspendre des exécutions, etc., etc. C'est le travail habituel des membres du groupe dinois. Voilà. Donc, on va maintenant passer une chanson de Michel Berger qui s'appelle « Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux ».
Celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles, en pensant qu'au bout du monde y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête, où qu'ils aillent. Ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Qui a volé leur histoire, qui a volé leur mémoire, qui a piétiné leur vie comme on marche sur un miroir. Celui-là voudra des bombes, celui-là comptera les jours en alignant des bâtons comme les barreaux d'une prison. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux
Voilà, donc pour terminer sur une note un peu plus légère, je vais vous présenter deux albums qui sont coédités par Amnesty International en direction des jeunes enfants, hein, plutôt des enfants du primaire ou des grandes maternelles. Alors le premier, ça s'appelle « Interdit aux éléphants ». Le texte est de Lisa Manchev et c'est illustré par Tae Yo aux éditions des éléphants, justement. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui en fait a comme animal de compagnie un mini éléphant. Alors il y a une amitié entre eux, mais bon, il est le seul à avoir un éléphant. Les autres enfants ont un chat, un chien, un oiseau. Mais bon, et ça pose problème le jour où il veut aller à une fête et puis quand il arrive, il y a marqué sur la porte « Interdit aux éléphants ». Donc on va voir qu'il va rencontrer d'autres amis qui ont aussi des animaux un peu particuliers et puis qu'ensemble, ils vont arriver à faire eux-mêmes leur fête où ce sera interdit mais à personne. Hein. Ça sera au contraire « Bienvenu à tous ». Voilà, donc un très beau texte, de très belles illustrations pour ce livre que vous pouvez vous procurer soit en nous contactant le groupe d'Amnesty de Digne, soit dans n'importe quelle librairie, vous pourriez le commander. Donc ça s'appelle « Interdit aux éléphants », aux éditions des éléphants. Et puis un deuxième album qui s'appelle « Terminus ». Texte de Matt de la Pena, illustration de Christian Robinson, aux éditions des éléphants toujours. Donc c'est l'histoire d'un petit enfant qui vit avec sa grand-mère, sa mamie, qui l'amène promener. Et cette grand-mère, ben, elle a le sens du beau. Elle arrive à trouver de la beauté un petit peu partout. Et elle montre à son petit-fils tout ce qui est beau autour d'elle et que l'on ne voit pas toujours forcément. Autant la beauté de la nature que la beauté aussi des personnes, les belles actions que l'on peut voir tous les jours et qui font quand même chaud au cœur. Voilà. Donc une belle histoire avec aussi une illustration un peu plus moderne. Ça s'appelle « Terminus ». Et c'est aussi aux éditions des éléphants. Voilà.
Ça m'intéresse alors, les éditions des éléphants. Donc, on pourra retrouver ces livres où
Alors, vous pouvez, ils sont... Donc, c'est coédité par Amnesty, ce qui fait que nous, en tant que groupe, on a quelques exemplaires où on peut les commander hein, pour vous. Il faut nous contacter. Soit vous allez dans une librairie et ils sont aussi en vente dans toutes les bonnes librairies.
Voilà, et ben c'est acheté.
Voilà, donc ben, on termine sur Leonard Cohen hein, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps dans son dernier disque.
Au revoir Régis.
Au revoir Odile.
On n'a pas d'autre rendez-vous à donner.
Non, alors je ne sais pas si fin juin on pourra faire l'émission ou si on ne va pas la décaler en fonction des activités qu'il y aura.
Et en tout cas, rendez-vous donc pour la course...
des femmes le week-end prochain, 3-4 juin, la Marseillaise des femmes. Et puis le ciné-débat le 26 juin.
Le 26 juin, on en reparlera très certainement sur notre antenne. Au revoir Régis.
Au revoir Odile.
Magnified, sanctified be thy holy name. vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nanny, hey, nanny. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hey, nanny, hey, nanny, I'm ready, my lord. Hey, nanny, hey, nanny,